week-end, des reportages, des interviews et des podcasts.
Pour nous trouver, tapez RFI dans la barre de recherche de YouTube, cliquez sur le logo de RFI et abonnez-vous pour être au courant de nos dernières publications.
Merci d'écouter RFI, les 7h30 à Paris, 6h30 en temps universel.
RFI Matin.
Fabrice Le Grillet de retour pour le journal. Fabrice, on connaît, ça y est, l'affiche de la finale de la CAN.
Elle opposera le Sénégal au Maroc et les Marocains qui ont fini par s'imposer au tir au but face au Nigeria. Tandis que le Sénégal a battu l'Égypte et pour les supporters, la joie est évidemment immense. Réaction à Dakar dans un instant. Et juste après ce journal, Christophe Diremzian reviendra sur la désillusion pour le Nigeria. Nous écouterons aussi le sélectionneur sénégalais. Ce sera dans le journal de la CAN.
En Ouganda, on vote pour la présidentielle et les législatives aujourd'hui.
Scrutin sous haute tension entre répression policière et coupure d'internet et de nombreux bureaux de vote ont vu leur ouverture retardée ce matin selon nos confrères de l'AFP.
En Guinée, une alerte concernant les conséquences de l'exploitation du fer dans les monts Nimba.
Alerte émanant de l'ONG Climate Rights International, une zone classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et donc une exploitation qui causerait des dégâts irréparables. Les détails dans ce journal. Nous nous rendrons aussi au Mali avec l'approvisionnement en carburant qui reste toujours très insuffisant. Pas de retour à la normale non plus concernant l'électricité.
Sénégal-Maroc, ce sera donc la finale de la Coupe d'Afrique des Nations.
Oui, le Maroc qui est venu à bout du Nigeria au tir au but 4-2 après un match nul 0 partout. Qualification aussi pour le Sénégal après un match haletant face à une défense égyptienne solide et un but marqué en toute fin de match par le joueur Sadio Mané. Et depuis, c'est la fête à Dakar en attendant la finale qui se jouera dimanche. Notre correspondante Léa Lisa Westerhoff est allée recueillir quelques réactions et c'est évidemment une grande joie.
On est parti à la finale, c'est la fierté nationale. Et même on peut dire internationale quand même. Finale!
On est très très content, vraiment. Vraiment. On n'a même pas les mots. Émotion totale. Ouais, c'est le maximum.
Quand on a dit que pendant la première mi-temps, le Sénégal n'avait pas du tout marqué, j'étais tellement stressée qu'on soit éliminé. Mais quand même, c'est la victoire qu'on a remportée.
Victoire méritée?
Oui, très méritée même. Surtout Sadio Mané. Mais merci à lui. Merci.
Sadio Mané est toujours présent dans les bons moments. Il ne nous a jamais laissé tomber. Là, maintenant, il reste la finale. On va assurer et gagner le trophée. Le ramener au pays, Inch'Allah.
Super, mais ça a été très stressant parce que l'Égypte est une équipe très joueuse, très tactique. Et à tout moment, on s'attendait à ce que le Sénégal tombe dans un piège. Mais heureusement, les joueurs ont fait preuve de beaucoup de motivation. Et je pense que finalement, ça s'est joué au mental.
En tout cas, je suis contente. C'est mérité. Cette victoire est vraiment méritée. Maintenant, jusqu'à la finale, on va continuer comme ça. On va gagner.
Waouh, on est fiers d'être Sénégalais. Sénégalais, rec.
Voilà pour le Sénégal qualifié pour la finale de la CAN face au Maroc dimanche. La veille, la petite finale opposera le Nigeria à l'Égypte. Des rencontres qui seront à suivre en intégralité sur les antennes Afrique de RFI. La Coupe d'Afrique des Nations qui sera aussi au programme d'appel sur l'actualité tout à l'heure avec Juan Gomez dès 8h10 TU sur RFI.
Des élections présidentielles et législatives en Ouganda aujourd'hui.
Et d'après nos confrères de l'AFP sur place, l'ouverture de nombreux bureaux de vote a été retardée ce matin. L'ouverture était prévue il y a 2h30. En tout, 21 millions d'Ougandais sont appelés aux urnes ce jeudi dans un climat de forte tension politique et sécuritaire. Le pays est coupé du monde, privé depuis mardi d'accès à Internet sur décision des autorités, officiellement pour des raisons de sécurité. L'ONU dénonce un climat marqué par une répression et une intimidation généralisée et de contrôle total de Yoweri Museveni sur l'appareil d'État. Fin de citation. Yoweri Museveni, 81 ans, président depuis 40 ans, qui brigue un 7e mandat consécutif. Face à lui, 7 candidats, parmi eux celui qui apparaît comme son principal adversaire, Bobby Wine, 43 ans, chanteur populaire, devenu la principale figure de l'opposition du pays. Notez par ailleurs que Human Rights Watch a réagi à l'ordre récemment donné par les autorités ougandaises à au moins 10 ONG de cesser leurs activités jugées contraires à la loi. Je cite une preuve supplémentaire du mépris pour la liberté d'expression et la liberté d'association.
En Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, la principale campagne de commercialisation connaît quelques remous.
Et on vous en parlait déjà hier matin, les producteurs crient leur désarroi. Ils affirment ne pas être payés depuis novembre et voir leur production s'accumuler faute d'acheteurs. Alors hier, le conseil du café cacao a tenu un point presse pour clarifier la situation et tenter de rassurer. Compte rendu avec Binta Diagne.
Le directeur général du conseil du café cacao l'assure, il n'y a pas de blocage à l'heure actuelle.
les nombreux camions remplis de cacao qui sont immobilisés autour des ports de San Pedro et d'Abidjan seraient selon lui dans l'illégalité. Yves Brahima Kone.
Quand on nous dit qu'il y a des camions à Abidjan, ils n'ont pas de papiers, mais ils sont dans l'illégalité. Pour nous au Conseil, c'est de la fraude. Ces camions ne pourront jamais se faire décharger dans les usines du système de la commercialisation du Conseil du café cacao.
Pour cette campagne, on estime à 1,5 million de tonnes le montant de la production de cacao. Le régulateur de la filière café cacao affirme qu'au moins 80% de la production a été vendue entre octobre et décembre dernier. Le directeur général du CCC assure vouloir mieux rémunérer le producteur, mais il évoque aussi une réalité, des opérateurs qui, selon lui, ne jouent pas le jeu. Yves Conné.
Il y a des acteurs qui demandent qu'on baisse le prix. Ce n'est pas responsable. L'opérateur vous dit, j'ai couvert mes contrats. Mais en même temps, ces opérateurs ont des usines. Il y a une disposition qui dit, même quand votre usine, vous êtes couvert, vous devez acheter jusqu'à 45 jours de stock. Ils ne le font pas.
De leur côté, les syndicats agricoles évoquent une piste pour soutenir les planteurs, l'existence d'un fonds de solidarité. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
En Guinée, cette alerte de l'ONG Climate Rights International.
Alerte concernant les conséquences humaines et environnementales de l'exploitation du fer dans les monts Nimba. Alors que les autorités viennent de lancer en grande pompe l'exploitation de Simandou, considéré comme le plus grand gisement de fer au monde, la société états-unienne Ivano et Atlantique espère, elle, démarrer en ce début d'année ses activités dans les monts Nimba, plus au sud. Problème, l'exploitation du fer causerait des dégâts irréparables dans cette zone, zone classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Carole Valade.
Aux confins du Libéria, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée, serpentent les monts Nimba, véritable trésor de biodiversité, par leurs espèces endémiques comme le crapaud vivipare, le chimpanzé, la chauve-souris, barrière naturelle indispensable à l'équilibre du climat, unique site de Guinée classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais étiqueté en péril depuis que les autorités en ont déclassé un millier d'hectares à destination de l'industrie minière, un projet sur le point d'aboutir, avec des conséquences désastreuses pour l'environnement, selon l'étude d'impact révélée par Climate Rights International, dont fait partie Fabien Hoffner.
On parle d'un cycle, les monts Nimba, qui capte la pluie, qui est à la source de nombreux cours d'eau. Donc c'est un tout, c'est pas uniquement les forêts, c'est pas uniquement les animaux, c'est pas uniquement les humains. C'est un site exceptionnel, avec des conséquences potentiellement multiples, graves et irréversibles.
Et cette étude ne concerne que la toute première phase du projet. L'activité minière risque aussi d'accentuer la pression foncière et sur les ressources, rendant plus difficile encore la vie des riverains.
À quel prix exploiter le fer des monts Nimba, qu'est-ce qu'il y a à gagner, qu'est-ce qu'il y a à perdre? Et si le gouvernement guinéen veut malgré tout avancer, faire en sorte que les recommandations de cette étude soient mises en place de façon très rigoureuse.
Le choix est désormais entre les mains du gouvernement guinéen qui détient 10% des parts du projet.
Carole Valade pour Radio France Internationale.
On termine ce journal, Fabrice, au Mali. Le Mali où les Bamakois continuent de chercher essence et électricité.
Et ce, alors que les autorités de transition ont organisé hier la journée dite de la souveraineté retrouvée. Le renforcement des escortes militaires a permis de réduire les conséquences de l'embargo décrété en septembre par les djihadistes du JNIM sur les importations de carburant dans le pays. Mais l'approvisionnement en carburant reste très fluctuant et surtout il est très insuffisant en région comme dans la capitale. À Bamako, justement, les habitants expriment désormais un sentiment de triste résignation. Reportage signé David Bachet.
Les habitants de la capitale ne reçoivent actuellement que 5 à 7 heures de courant par jour, et surtout la nuit. Certains quartiers un peu plus. Comment peut-on vivre sans électricité dans la journée, se plaint un Bamakois. Moi j'en ai 24 heures sur 24, mais c'est parce que je vis à côté du camp militaire de Kati, explique un habitant de cette ville garnison qui jouxte la capitale. Quant au carburant, la majorité des stations sont toujours à sec, et il faut patienter plusieurs heures devant les autres pour faire le plein. Des stations ont rouvert, il y a du mieux, relève un Bamakois. Hier, j'ai fait le rang pendant 5 heures, s'agace un autre. Plusieurs convois de citernes sont arrivés à Bamako depuis le week-end dernier, mais le retour à la normale est loin d'être atteint. Après la résilience, l'incompréhension ou la colère, c'est une triste résignation qui s'exprime désormais. Les gens s'habituent, ils ne disent plus rien, témoigne un habitant. Tantôt ça va, tantôt ça ne va pas, alors on fait des stocks, explique un autre. Ça ne sera plus jamais autrement, soupire enfin un Bamakois qui pointe les attaques djihadistes mais aussi la fraude et les détournements d'essence contre lesquels les contrôles ont pourtant été renforcés.
David Bachet pour Radio France Internationale. Et puis notez par ailleurs d'ailleurs que dans un communiqué qui a été diffusé hier, l'armée malienne affirme avoir neutralisé un groupe armé terroriste à moto et détruit un pick-up camouflé près de Banamba, région de Koulikoro, dans le sud du pays. C'est la fin de ce journal RFI Matin. La suite, c'est avec vous, Andréane Mella.
Merci Fabrice Le Grillet. Vous revenez tout à l'heure à 8h30, heure de Paris, pour un nouveau journal. Et il est 7h40 ici à Paris.
Le journal de la CAN.
On ouvre une page dédiée à la Coupe d'Afrique des Nations dans RFI Matin. Christophe Diremzian, le Maroc jouera bien le titre dans sa CAN. Le pays hôte n'est plus qu'à une marche du sacre tant convoité après être venu à bout hier du Nigeria. 4-2 en demi-finale.
Ils ont dominé, ils ont peiné. Yassine Bounou a arrêté et les Lions de l'Atlas ont été délivrés. Et avec eux, tous les supporters marocains du stade de Rabat qui ont longtemps dû se ronger les ongles face au 0-0 persistant, face au Nigeria. Les hommes de Walid Regragui ont quand même dû patienter jusqu'à la séance finale et fatale aux Super Eagles après les échecs de Samuel Chukwueze et de Bruno Onyemaechi devant le portier marocain. Bien en dessous de son niveau habituel, le Nigeria ne pouvait en réalité ne sortir que frustré de ce match. Cédric d'Oliveira.
Ils n'étaient pas nombreux chez les Super Eagles à vouloir s'exprimer après cet échec. Eux qu'on avait vu si impressionnants jusqu'à maintenant ont manqué leur rendez-vous contre le Maroc. Après 120 minutes d'un duel sans but, Bright Osayi Samuel a vu la séance de tir au but échapper au Nigeria.
Oui, on a perdu au tir au but, mais il y a une part de chance. Et on peut dire qu'ils ont eu de la chance. C'était un bon match. Les deux équipes ont bien joué. Mais j'insiste, les pénaltys, ça reste de la chance. Et ils en ont eu. Je leur souhaite le meilleur pour la finale.
Pas sûr que la chance soit la seule explication de cette élimination. On n'a pas reconnu le Nigeria conquérant du début de CAN. Emprunté et sans imagination, les Super Eagles ont comme en barrage de la Coupe du Monde en novembre face à la RDC, perdu au tir au but. Une séance à laquelle n'a pas participé Victor Osimhen, remplacé quelques minutes avant. Choix assumé par son sélectionneur Eric Schell.
Statistiquement, les joueurs qui ont tiré, c'était les meilleurs. Et c'est pour ça qu'on a fait des changements pour faire rentrer les joueurs qui allaient tirer. Victor avait une petite blessure à la cheville, donc c'est pour ça qu'on a fait rentrer Paul, qui d'ailleurs était statistiquement l'un des meilleurs tireurs de cette période.
Déjà battu il y a 2 ans en finale de la précédente CAN, le Nigeria voit une nouvelle fois ses rêves s'envoler, alors qu'il ratera sa 2e Coupe du Monde d'affilée l'été prochain. Une nouvelle désillusion pour cette génération qui va devoir patienter avant un nouveau défi d'envergure. Cédric d'Oliveira, Rabat. RFI.
Et pour mettre fin, Christophe, à une attente de 50 ans, les Marocains devront défier le Sénégal lors de l'ultime duel.
Oui, des Lions de la Teranga qualifiés, eux, à Tanger, aux dépens d'une Égypte trop inoffensive, battue 1-0 par des Sénégalais en route pour leur 3e finale de CAN en 4 éditions. Et grâce à qui ? Grâce à Sadio Mané, qui, dans le dernier quart d'heure, a réussi à faire sauter le verrou adverse dans un match dominé dans le jeu par les champions d'Afrique 2022, estime en tout cas leur sélectionneur Pape Thiaw avec Antoine Grenier.
On avait la maîtrise, mais après, face à une équipe qui défend bien, qui aime défendre surtout, et qui a les deux, qui a deux grands attaquants qui peuvent nous faire mal à tout moment, il fallait garder cet équilibre. Et les joueurs ont respecté ça, et après, on avait la maîtrise du ballon. On avait un tout petit peu pour leur faire sortir leurs centraux et aller leur faire mal. On savait qu'en jouant en profondeur sur les côtés, ça fait sortir les centraux et on a pu le faire. Et à un moment aussi, et on a un autre monument qui débloque cette situation, qui montre vraiment qui il était.
Pape Thiaw reconnaissant envers Sadio Mané qui a annoncé d'ailleurs après le match que cette CAN était sa dernière. Alors réussira-t-il sa sortie ou pas ? Réponse dimanche à 19h, temps universel au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. Une apothéose à vivre bien évidemment en intégralité sur RFI si vous êtes en Afrique. Et samedi, le traditionnel match pour la 3e place, Égypte-Nigeria à Casablanca.
Rentrer à la maison après les 8e, le Burkina n'a plus de sélectionneur.
Oui, Brahma Traoré et tout son encadrement n'ont pas tardé à faire les frais de cette élimination jugée trop rapide par la Fédération qui avait tabé sur une demi-finale. Le technicien avait été nommé en mars 2024. Et puis la Tunisie, également écartée en 8e par le Mali, a déjà trouvé le successeur de Sami Trabelsi, c'est Sabri Lamouchi. Il a signé pour 2 ans. Il était notamment passé par la Côte d'Ivoire.
Christophe Diremzian, on passe à la revue de presse. Une revue de presse africaine 100% Cannes, comme promis. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une, le combat des lions.
Oui, les lions de la Teranga contre les lions de l'Atlas. C'est donc l'affiche de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de foot qui aura lieu dimanche soir dans les deux pays, Sénégal et Maroc. On exulte. Pharaonique lance le soleil à Dakar en première page. Tanger, un soir de gloire. Devant 52 000 spectateurs et sous une tension électrique, le Sénégal a une nouvelle fois dompté l'Égypte pour s'offrir une place en finale de la Cannes 2025. Au terme d'un combat tactique haletant, les Lions ont trouvé la faille à la 77e minute grâce à leur leader éternel, Sadio Mané, auteur d'un but aussi libérateur que symbolique.
Un peuple, un but, une finale, renchérit Wolf Quotidien.
Une frappe et Mané libère tout un peuple. Les Lions tiennent leur finale, la quatrième de leur histoire après 2002, 2019 et 2021. Interrogé par le journal, le sélectionneur Papio, que l'on vient d'entendre d'ailleurs sur RFI, à l'instant, Papio explique la clé du match face à une équipe qui aime défendre et qui a deux grands attaquants qui pouvaient nous faire mal. Il fallait équilibrer. Les joueurs ont respecté cela. Après, on avait le ballon. En jouant dans la profondeur et sur les côtés, on pouvait sortir leurs centraux. On a pu le faire avec Mané, qui a donc débloqué la situation.
Le Maroc en finale de la Cannes 2025, joie suprême à Rabat. C'est le grand titre du quotidien aujourd'hui.
Des cris, des larmes, des drapeaux brandis partout, relate le journal. Dès le coup de sifflet final, scellant la qualification des Lions de l'Atlas pour la finale de la Cannes en battant le Nigeria, le Maroc tout entier est entré en liesse. Dans les rues de Rabat, la nuit s'est muée en une marée rouge et verte. Klaxons, chants patriotiques, you-you et accolades entre inconnus ont dessiné le visage d'un peuple uni derrière son équipe nationale. Les Lions de l'Atlas n'ont pas seulement gagné un match, ils ont réveillé une ferveur collective, un sentiment d'appartenance puissant.
Le Maroc élimine le Nigeria au bout du suspense, tonne le matin.
En effet, après 120 minutes de jeu, le Maroc et le Nigeria ont dû se départager au pénalty, tel qu'elle raconte. Elle, Enaoui, se lance pour le premier tir au but. Il marque et permet à tout un peuple de respirer. Le reste est un ascenseur émotionnel. Igaman, dans son jardin, rate, mais Bounou rattrape le coup, plutôt deux fois qu'une, en arrêtant deux pénaltys. En-Nesyri s'occupe du dernier tir pour libérer tout un peuple. En effet, Pointe-Afrique Foot, auteur de deux arrêts durant la séance de tir au but, Yassine Bounou est le héros du soir. Il a d'ailleurs été sacré homme du match au Bounou de la nuit, ironise pour sa part l'équipe à Paris. Référence, vous l'aurez compris, bien évidemment, aux gardiens marocains et à l'heure tardive de la fin de la rencontre.
Alors, Maroc-Sénégal dimanche soir.
Oui, commentaire de Wakad Serra. Si l'Afrique de l'Ouest est certainement déçue de ne pas avoir réussi à placer deux équipes en finale, le public de la Cannes, lui, sera ravi d'assister à un duel de fauves qui s'annonce très disputé avec les deux meilleures équipes de la compétition. En tout cas, quel que soit le résultat de l'ultime soirée de cette Cannes marocaine, Dame Coupe rejoindra une tanière de Lyon.
Enfin, qui va l'emporter ?
Eh bien, le pays penche pour le Sénégal, une équipe redoutable qui ne laisse quasiment aucune chance à ses adversaires, pointe le quotidien burkinabé, avec 12 buts marqués contre seulement 2 encaissés, sans la moindre défaite depuis le début de la compétition. Le Sénégal réalise jusque-là un parcours digne d'un grand champion et en écartant sur leur chemin l'équipe la plus titrée de la compétition, les Lions de la Teranga peuvent rêver d'une deuxième étoile. Sadio Mané et ses camarades ont prouvé qu'ils avaient les moyens de concrétiser leur ambition. Iront-ils jusqu'au bout de leurs rêves ? Eh bien, on le saura dimanche soir.
Et pour donner vos pronostics pour cette finale de la Cannes, Juan Gomez et l'équipe d'Appel sur Actu attendent votre appel, votre message. Rendez-vous tout à l'heure à 8h10, temps universel. Frédéric Couteau, dans une demi-heure, à la une de la revue de presse internationale, le bras de fer américano-européen sur le Groenland.
Oui, dialogue de sourds hier à Washington. Et cette question face à l'expansionnisme trumpien, l'Union européenne va-t-elle oser le rapport de force ?
À tout à l'heure.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mellard.
Le Groenland, où un exercice militaire conjoint entre Européens va se tenir. Les soldats français d'ailleurs sont déjà en route, c'est une information RFI. On y revient avec Franck Alexandre dans le prochain journal à 8h. Ce territoire autonome danois de l'Arctique et sa protection face notamment aux velléités américaines ainsi que la situation en Iran au cœur d'un conseil de défense qui se tient ce matin à l'Elysée à Paris. L'Iran, où selon notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi, la situation semble relativement calme ce matin. Les tueries en Iran ont pris fin, a dit de son côté hier Donald Trump, qui a dit, se baser sur des sources très importantes, je cite, de l'autre côté. Et selon ces mêmes sources citées par le dirigeant américain, les exécutions prévues de manifestants n'auront finalement pas lieu. La Cannes et ses finalistes Maroc et Sénégal, c'est à la une ce matin, ainsi que l'Ouganda, où l'on vote aujourd'hui pour la présidentielle et les législatives. Des retards annoncés ce matin dans l'ouverture des bureaux de vote. On y revient également dans le prochain journal RFI à Lomé. Il est 6h49. La capitale togolaise où doit se tenir après-demain un nouveau sommet sur la RDC. En effet, le président du Conseil togolais, Fornia Singbe, a été désigné par l'Union africaine pour mener la médiation dans la crise meurtrière qui touche l'est de la République démocratique du Congo. Et ce samedi, donc, autour du dirigeant togolais, on attend de nombreux ministres africains des Affaires étrangères et les envoyés spéciaux des États-Unis et du Qatar. Alors, en plus des récents échanges menés par João Lourenço, en plus du processus de paix de Washington entre RDC et Rwanda, et en plus de celui de Doha entre RDC et AFC M23, que peut apporter ce sommet ? Christophe Boisbouvier a posé la question à Christian Moleka, coordinateur de la dynamique des politologues du Congo.
Christian Moleka, bonjour.
Bonjour.
Ce sommet de Lomé ce samedi, est-ce qu'il peut en sortir quelque chose ?
Il peut en sortir une tentative de coordination des initiatives de médiation qui sont aujourd'hui à la fois africaines et internationales, qatariennes et américaines. Le Togo, qui représente l'Union africaine de la médiation, a depuis 2025 lancé une initiative qui a pris du temps à s'implémenter et donc il y a nécessité de tenter de redonner sens à l'initiative à la fois africaine, mais de coordonner également avec ce qui s'est fait à Doha, à Washington. Et donc la rencontre peut aider à une clarification de rôle, redonner à l'Union africaine probablement une dynamique de dialogue interne et peut-être une dynamique régionale qui prendra en compte les autres acteurs comme l'Ouganda et le Burundi qui n'ont jamais été pris en compte, afin qu'elle ne marche pas, je dirais, sous les plates-bandes de Doha et de Washington.
Avant ce sommet, le Congolais Félix Tshisekedi a fait plusieurs déplacements. Il est allé voir le Togolais Fornia Singbe à Lomé. Il est allé aussi rencontrer l'Angolais João Lourenço à Luanda. Le président angolais lui aurait fait des propositions intéressantes. De quoi pourrait-il s'agir ?
Il peut s'agir de la volonté de relancer un dialogue interne, un dialogue national interne congolais. L'Angola qui aujourd'hui voit une rébellion qui peut s'étendre vers le Katanga et donc remettre en question les intérêts économiques du corridor Lobito a besoin d'un minimum de stabilité et donc un processus de dialogue interne peut naître de la démarche angolaise parce que Kinshasa a refusé à ce jour de prendre l'initiative des évêques, notamment la démarche du pacte social et donc une initiative angolaise qui porterait sur le dialogue national inclusif peut pour Kinshasa être un plan de réchange contre la dynamique interne portée par les évêques.
Sur le fond du dossier, il y a une paix artificielle qui a été signée le 4 décembre à Washington par les présidents du Congo et du Rwanda en présence de Donald Trump, mais quelques jours plus tard, les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais se sont emparés de la ville d'Uvira, au sud Kivu. Qu'est-ce qu'il faut en déduire ?
Il faut en déduire que le M23, qui reste l'acteur militaire sur le terrain, ne se sent pas lié par le processus de Washington et qu'on a un processus de Doha qui, à ce jour, est quelque peu en panne, puisque ne marchant pas. Et sans une complémentarité Doha-Washington, il sera très difficile d'avoir sur le terrain des solutions définitives tant que la donne M23 ne sera pas prise en compte. Et donc, la reprise des armes pour le M23, c'est un levier de pression pour pousser Kinshasa à revenir sur la table de négociation et à entériner également Doha.
Alors après la prise d'Uvira au sud Kivu, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que c'était une claire violation de l'accord de Washington et que les États-Unis y répondraient. Sous-entendu, il y aurait des sanctions contre le Rwanda. Mais depuis un mois, les Américains n'ont pris aucune mesure. Qu'est-ce que cela vous inspire ?
On peut penser déjà qu'il y a une pression sur l'administration américaine pour que les sanctions ne soient pas prises. À Kinshasa, on a pointé du doigt, sans les dire à haute voix, le Qatar, pour que des sanctions ne soient pas prises directement vis-à-vis du Rwanda. Mais on a également une administration américaine qui est à ce jour portée par d'autres crises et une attention de moins en moins tournée sur la question congolaise avec la dynamique qu'on a au Venezuela, mais également au Moyen-Orient avec l'Iran.
Et vous pensez donc que pour les autorités congolaises, peut-être aussi pour les autorités burundaises, le Qatar fait pression sur les États-Unis pour qu'il n'y ait pas de sanctions contre le Rwanda ?
Effectivement, je crois que pour Kinshasa et le Burundi, la lecture est très claire. Le Qatar a certainement dû peser sous la décision américaine pour ne pas sanctionner le Rwanda. Il y a des enjeux économiques derrière. Le Qatar a énormément investi au Rwanda et donc les sanctions toucheraient aux intérêts également économiques du Qatar.
Comment voyez-vous les jours à venir d'ici la fin de ce mois sur le terrain ? Un enlisement ou peut-être une nouvelle offensive militaire de la part des rebelles du M23 et de leur allié rwandais ?
Le M23 est en mode observation aujourd'hui. Après la pression américaine sur Uvira, ils laisseront passer la pression, mais chaque parti s'organise militairement et construit un narratif pour justifier la suite des combats qui pourraient s'étendre cette fois-ci vers le Katanga.
L'une des stratégies du Congolais Félix Tshisekedi, c'est d'obtenir un clair soutien des États-Unis contre le Rwanda. Est-ce que cette stratégie peut marcher ou pas ?
Les États-Unis, pour l'instant, sont intéressés sur les minerais du Congo et ont besoin d'un minimum de stabilité pour faire le partenariat économique. Et donc, c'est un levier sur lequel Kinshasa peut appuyer. Le vrai défi, c'est que vous avez un médiateur américain imprévisible qui, à la fois sur beaucoup de chantiers, le Venezuela, l'Iran, le Groenland, et qui, à un moment donné, sera lui-même enlisé dans une politique intérieure avec les élections de mid-term qui viennent. Et donc, 2026 peut être une année où la tension américaine sous la crise congolaise peut être réduite. Et donc, à ce moment-là, Kinshasa perdra ce levier américain d'intérêt stratégique sur le conflit.
Christian Moléka, je vous remercie.
Notre grand invité Afrique ce matin sur RFI, Christian Moléka, le coordinateur de la dynamique des politologues du Congo, la DIPOL, il répondait à Christophe Beaubouvier. Votre carte postale du Gondwana, comme chaque jour, et ce jeudi, vous nous dites qu'au sein de la très très démocratique République, la crise économique a des conséquences inattendues au sein des familles.
Oui, la crise économique est tellement installée au Gondwana qu'on lui a donné la nationalité gondwanaise. Auparavant, elle venait ici en touriste, la crise économique. Elle passait quelques jours, visitait quelques quartiers, toujours les mêmes, et repartait ailleurs. Puis, comme le Gondwana lui a beaucoup plu, elle a commencé à revenir plus souvent. Le gouvernement lui a alors octroyé visa long séjour, puis un titre de séjour permanent. Et là, comme la crise économique, c'est acheter une grande maison à Gondwana City, notre belle capitale, pour une bouchée de pain, bien évidemment, et tout plein d'entreprises. Président fondateur a décidé d'en faire une citoyenne gondwanaise à part entière. Et du coup, les effets n'ont pas tardé à se faire ressentir partout dans la société. Prenons par exemple les retraités de la fonction publique gondwanaise. Ils refusent de céder leur poste, ne veulent pas partir à la retraite. Eh oui, la retraite n'est plus une fin de carrière. Elle est une stratégie de survie familiale pour une raison toute simple. La pension de retraite de grand-père est le seul revenu de toute la maison. Bah attends, si papy lâche son poste, bah tout le monde tombe avec lui. Hein. Les enfants, les petits-enfants, la belle-mère et même la petite cousine qui revise encore le bac depuis 2003. Donc, papy a pris une décision claire. Il va s'accrocher à son bureau comme un chewing-gum sous la table. Résultat, au Gondwana, les jeunes diplômés sont au chômage tandis que les retraités font des heures supplémentaires. Les jeunes sont sur le carreau, mais bien formés, hein, bien polis. Dans le bureau, par exemple, tu as un stagiaire de 25 ans, encadré par un directeur de 78 ans qui ne sait toujours pas allumer un ordinateur, mais sait très bien éteindre le ministre au téléphone, parce que, après des décennies au même poste, il en a vu passer des ministres. Résultat, nouveau métier à la mode, jeune diplômé en attente de décès d'un retraité de catégorie A. Son travail, mais c'est attendre que quelqu'un à l'intérieur libère la place suite à un malaise, un AVC, etc. Il n'a pas de salaire, mais son travail est à plein temps. Hein. Les gouvernants, eux, ont trouvé la solution linguistique. On ne parle plus de chômage massif, on parle de jeunesse en transition. Transition entre quoi et quoi? Ben, personne ne sait. Hein. Probablement entre deux générations de retraités qui refusent de partir. Dans certains quartiers, le jour de paiement des pensions, ben, c'est comme à la canne. Tout le monde est devant la banque, drapeau à la main, avec des vouvouzélas pour accompagner papy et surtout pour qu'il n'oublie personne. Ben oui, même ceux qui ont un travail en bonne et due forme. Ben attends, la crise économique a amené un phénomène météorologique, les arriérés de salaire. Du coup, les retraités ont peur. Hein. Ils se disent, si déjà quand je travaille, on ne me paye pas, imagine quand je ne travaillerai plus. Devant cette situation, le gouvernement de président fondateur vient de créer un nouveau ministère, ministère de la libération des bureaux et de la circulation des postes. À lundi.
Et oui, à lundi, Maman. Merci beaucoup, RFI Matin. On reste ensemble, le journal à suivre. Et puis la revue de presse, belle journée. Bon réveil.
Ce samedi sur RFI, écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
L'Europe et l'Afrique sont deux continents au destin lié et qui cherchent à redéfinir leurs relations. Comment passer d'une aide à sens unique à un véritable co-développement? Investissement, infrastructure, commerce, gouvernance, les défis et les opportunités sont nombreux.
Écho d'ici, écho d'ailleurs.
Avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI. Ce jeudi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Juliette Garbrandt.
De Game of Thrones à la saga des Transformers, l'Irlande du Nord prête ses décors naturels à de très grosses productions. Le cinéma y est devenu une poule aux œufs d'or. Et Belfast se rêve en nouvel Eldorado de l'industrie du film grâce à un immense studio à peine sorti de terre au nord de la capitale.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 17h10 TU sur RFI. littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
C'est un roman qui raconte la Malaisie de l'intérieur, où l'auteur Tash Hao décrit son pays à travers les fractures sociales et les discriminations sexuelles. Mais le temps d'un été, son jeune protagoniste va connaître sa première histoire d'amour. Un rayon de soleil dans cette fiction intitulée « Le Sud ».
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU.
RFI. Écoutez RFI en direct et en podcast sur l'application RFI Pure Radio.
Conçue comme une plateforme d'écoute, Pure Radio offre un accès à tous les contenus de RFI en français et dans 16 autres langues. Elle vous permet de rester au plus proche de l'actualité et de retrouver facilement les podcasts de vos émissions préférées. Vous